France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, journaliste éditorialiste, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine, et en particulier aujourd'hui sur la guerre commerciale lancée par Donald Trump au monde entier. Et puis pour le débat, nous recevrons un de nos grands magistrats qui a le plus réfléchi au sens de la justice et dans le contexte de la condamnation de Marine Le Pen et la dénonciation du gouvernement des juges par ceux qui la soutiennent. Son regard de spécialiste du populisme pénal sera très précieux. Il a publié cette semaine une tribune éclairante dans le journal Le Monde sur les deux conceptions de l'état de droit qui s'affrontent aujourd'hui en France. Le magistrat et enseignant associé à l'École nationale de la magistrature, directeur de la revue Les Cahiers de la Justice, Denis Salas, sera avec nous pour le débat. Mais pour l'instant, place au duel.
Le grand face-à-face. Thomas Snegaroff sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour.
Quelle semaine politique chez nous et dans le monde. Et justement, pour commencer, direction les États-Unis, où Donald Trump a appuyé mercredi soir sur le bouton nucléaire de la guerre commerciale.
La Chine, 67%. On va donc appliquer des droits de douane réciproques réduits de 34%. Les Européens sont très durs en matière de commerce. Vous croyez que ce sont des amis, mais ils nous arnaquent. C'est triste à voir, tellement pathétique. 39%. On va leur facturer 20%. Pratiquement la moitié.
C'est désormais une réalité, enfin, sauf sur les chiffres qu'il vient de donner, mais Trump fait ce qu'il dit et met en scène ce qu'il fait. Cette question, on se l'est posée beaucoup, mais je vous la pose à nouveau aujourd'hui. Natacha, à quoi joue Donald Trump ?
On en a déjà parlé ici. Donald Trump a une obsession, donc c'est le déficit commercial des États-Unis et la désindustrialisation. Il faut quand même rappeler qu'en 25 ans, les États-Unis ont perdu 5 millions d'emplois et surtout 500 000 entreprises manufacturières. Bon, sauf que la vision de Donald Trump est totalement biaisée, puisque cette obsession sur le déficit commercial en biens oublie qu'il y a un excédent sur le déficit commercial en services. Et que si on regarde le cas des échanges avec l'Union européenne, en tout, ce sont 1650 milliards de dollars qui ont été échangés sur 12 mois au troisième trimestre 2024. Sur les biens, il y avait un excédent européen, 187 milliards. C'est d'ailleurs la moitié est constituée par les exportations allemandes. Mais sur les services, l'excédent était américain, 137 milliards. Donc en fait, le déficit américain est minuscule. Et puis, il faut ajouter autre chose d'essentiel pour comprendre ce mécanisme, c'est que c'est le pendant de la puissance du dollar qui permet, en fait, aux États-Unis de pomper l'épargne mondiale. C'est-à-dire que la structure financière américaine, la puissance financière américaine, fait que l'épargne des différents pays du monde, d'Europe en particulier, va vers les États-Unis et finance la surconsommation des ménages américains. Cette surconsommation, donc, étant nourrie par les importations de biens, importations depuis l'Europe, depuis la Chine, etc. Donc, toute la problématique de Donald Trump va être, en fait, d'essayer de réindustrialiser, donc de faire en sorte que les entreprises s'installent sur le sol américain, sans pour autant déstabiliser cette mécanique qui sert les intérêts américains et qui permet tout simplement de vivre au crochet du reste du monde, puisque c'est tout de même ça le sujet. Et en plus d'imposer derrière, par la puissance du dollar et l'extraterritorialité du droit, un contrôle américain sur le reste du monde. Donc dans ce cadre-là, la réponse européenne, alors il faut avouer que pour l'instant, elle est quand même assez légère. C'est-à-dire qu'on a entendu depuis des semaines les Européens expliquer qu'ils étaient préparés, qu'ils avaient réfléchi. Et là, on attend d'avoir le résultat de cette réflexion, ça tarde à venir. Mais surtout, Reuters et le Financial Times annonçait au début de la semaine que l'Union européenne s'apprêtait en fait à refermer certaines procédures contre les GAFAM et que d'autres allaient être amoindries et déboucher sur des amendes minimes. on espère que ça va bouger un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est là qu'il faut taper. Je vais répondre aux droits de douane sur les voitures par des droits de douane sur le bourbon ou même sur l'acier est absurde. Ce qui va faire mal aux États-Unis, c'est de taper là où nous sommes en fait en situation de colonisation, c'est sur les services numériques.
Gilles, en situation de colonisation, le mot est un peu fort de la part de Natacha, mais effectivement la question de la réponse elle est fondamentale. Est-ce qu'on répond à la canadienne, œil pour œil, dent pour dent, à la mexicaine, en négociant avec les États-Unis, ou on ne fait rien en attendant que les marchés s'en chargent, la bourse s'effondre, que les midterms arrivent et que Donald Trump soit emporté par peut-être enfin le mur du réel?
Alors, ça revient à votre question de départ, à quoi joue Donald Trump? D'abord, il part, il faut quand même dire les choses de manière un peu brutale, d'une vision paranoïaque du monde. La formule qu'il a utilisée, c'est « notre pays a été, je le cite, pillé, saccagé, violé et dévasté par des nations proches ou lointaines, des alliés comme des ennemis ». Pour cela, il utilise des chiffres qui sont à la fois truqués et tronqué. Natacha vient de l'évoquer, la différence entre les biens et les services. L'objectif ou l'espoir qui est le sien, c'est d'être dans une situation gagnant-gagnant. C'est-à-dire que soit il y a une baisse des importations à la suite de cette augmentation des droits de douane, et donc il rééquilibre le déficit commercial, voire il favorise, ce que disait Natacha, des relocalisations, soit il y a une stabilisation des importations, et dans ce cas-là, il y a davantage de recettes fiscales. Ce faisant, il a en tête ce qui était un peu le modèle des États-Unis au début du XXe siècle, avec des impôts sur un impôt sur le revenu très faible,
voire inexistant jusqu'en 1913,
et des droits de douane très élevés. Mais la réalité est que tout cela, c'est une redistribution aux États-Unis des pauvres vers les riches, et dans le monde, des pays pauvres vers les pays riches, parce que ce sont les pays pauvres qui ont été le plus taxés. Donc, à quoi il joue ? Il y a ça. Et puis, il y a une deuxième chose, parce que je crois que tout ça s'inscrit dans une logique qui n'est pas seulement une logique économique, mais qui est une logique politique d'ensemble, qui est une certaine conception du pouvoir, à rebours de la conception traditionnelle de la philosophie politique américaine, qui se méfie du pouvoir et dont qu'on doit à la fois diviser, qu'on doit contrôler. Donald Trump est dans une vision d'un pouvoir illimité. Un pouvoir qui n'a pas de frontières, et il y a eu trois événements cette semaine qui étaient très illustratifs de ça. Pas de frontières juridiques, c'est les tarifs, les droits de douane dont on vient de parler. Pas de frontières temporelles, c'est l'idée d'un troisième mandat à rebours de ce que prévoit la Constitution. Pas de frontières géographiques. Le Groenland, y compris par la force. Et je crois qu'il y a, entre l'économie et la politique, un gros tournant qui vient de s'accomplir.
Très jolie analyse sur les frontières dépassées. On est là, vous aviez employé le terme de colonisation, dans quelque chose qui ressemble à une forme d'impérialisme américain, de néo-impérialisme américain. Pas de frontières, c'est l'impérialisme.
C'est toute la brutalité de l'impérialisme américain. En effet, sans complexe. C'est-à-dire que les mécanismes dont on a parlé, des mécanismes qui sont en fait des mécanismes de captation de la richesse mondiale, de l'épargne mondiale, etc., tout ça, ça existait avant Donald Trump. Disons que lui en fait un instrument de brutalité. Donc, tout le problème. Alors, il faut bien comprendre que ces mécanismes-là ont permis aussi à des pays dont le modèle est mercantiliste de préserver leurs industries et surtout de préserver les intérêts de leurs entreprises et en particulier de leurs grandes entreprises. Pourquoi ? Parce que pouvoir exporter vers les ménages américains, ça permet de ne pas augmenter les salaires chez soi. Ça permet de ne pas nourrir la demande intérieure. Et c'est ça qui s'est passé en Europe. Le modèle allemand, par exemple, s'est nourri de cela. Donc, c'est pour ça que une réponse intéressante de la part de l'Union européenne serait justement de stimuler sa demande intérieure et de limiter ce modèle mercantiliste Or, le risque, c'est qu'elle ne le fasse pas parce que les pays européens sont divisés, n'ont pas tous les mêmes intérêts, même si on peut se dire que là, il y a quand même, j'ai entendu quelques remarques, alors c'est peut-être des vœux pieux, mais quelques remarques sur le thème qu'il faudrait, selon lequel il faudrait que les dommages soient répartis uniformément entre pays. C'est déjà pas mal, mais le risque, c'est surtout, puisque la Chine va être frappée également, qu'elle pratique une forme de dumping, ce qu'elle avait déjà commencé à faire, notamment sur les voitures électriques, pour faire de l'Europe l'endroit où vont s'absorber les excédents dont elle souffrira, puisqu'elle ne pourra plus exporter vers les États-Unis. Donc le moment va être clé, mais il pourrait être utilisé pour changer de modèle et pour que l'Europe ne se conçoive plus comme un grand lieu de flux, mais comme un endroit où l'on crée réellement de la richesse pour les citoyens européens.
Ou un endroit de flux, mais intracommunautaire.
Bah, c'est bien ça, c'était le principe, ça s'appelle la préférence communautaire.
Gilles, deux remarques sur l'impérialisme et la brutalité qu'évoque Natacha. Je dis les choses autrement, Donald Trump met un terme à 77 ans de multilatéralisme.
Oui.
Depuis les premiers accords du GATT en 1947, il y a eu 8 cycles de négociations qui avaient deux caractéristiques communes. On baissait les droits de douane et on agissait de manière multilatérale. On est même allé plus loin d'ailleurs avec la création de l'OMC, puisque l'Organisation mondiale du commerce, c'était un pays, une voix et un organisme de règlement des différends qui imposait des solutions aux États. Là, avec Trump, l'OMC est exécutée. Hausse des droits de douane.
Ça fait un petit moment.
Unilatéral, bien sûr. C'est, disons, le dernier clou sur le cercueil.
Oui, l'entrée
l'OMS,
de la Chine,
l'OMS est abandonné. L'accord sur le climat est rejeté. Et, c'est dans un autre registre, l'OTAN est démantelé. Et donc, l'USA, les États-Unis deviennent une force à la fois erratique et solitaire et un isolement qui n'est même pas splendide. Reste la question, et j'en termine par là, de la réponse européenne. Il faut reconnaître que l'Union européenne se trouve face à un dilemme. Du point de vue politique, il est difficile, voire impossible, de ne rien faire. Ça serait un signe de faiblesse. Et d'un point de vue économique, il est coûteux, ou il peut être coûteux de faire, dans la mesure où ça peut affaiblir pas seulement les États-Unis, mais où ça peut nous affaiblir nous-mêmes, à la fois des secteurs et puis la croissance économique qui est déjà atone. Je pense que le pire serait de ne rien faire, donc je comprends qu'on prenne le temps pour agir le mieux possible, l'essentiel étant, et c'est la stratégie du rapport Draghi, de faire en sorte que la croissance interne de l'Union européenne retrouve davantage de potentialité.
Le grand face-à-face. Le duel.
Deuxième sujet, on revient sur la troisième édition du baromètre lien social Ipsos, saisi école d'ingénieurs pour le groupe de presse quotidienne régionale EBRA, dévoilé ce jeudi. Brice Teinturier était sur l'antenne de France Inter pour en donner les grandes lignes.
Il y a une France fracturée, mais la France ne peut pas se réduire qu'à cela. Il y a des choses qui unissent nos concitoyens. Il y a d'abord cette idée partagée par 67% des Français que le lien social au plan local est bon. Alors, dans ce qu'ils perçoivent comme rassemblant les concitoyens, il y a le sport, il y a la gastronomie, il y a les services publics. Que vous soyez de droite ou de gauche avec des différences d'intensité, certes, mais il y a un attachement puissant de majorité de Français.
On a beaucoup parlé ici des fractures de notre société. Ce rapport, il change d'échelle et il montre donc autre chose, Natacha.
Oui, ce qu'il montre d'abord, c'est en effet exactement ce qu'expliquait Brice Teinturier, à savoir le décalage entre la perception d'un lien social qui se détériore au niveau national, et qui se détériore même fortement, et l'idée que autour d'eux, les Français ont l'impression que le lien social est plutôt fonctionne, est plutôt positif, et qu'il s'appuie notamment sur les lieux de sociabilité. C'est le premier élément qui est marqué pour caractériser les éléments qui permettent de perpétuer le lien social. On remarque aussi, et c'est ça que j'ai retenu dans ce rapport, quand on interroge les Français sur les valeurs auxquelles ils croient et qu'ils veulent défendre, la première qui apparaît, c'est la liberté, très loin devant les autres. Très loin devant l'égalité, la démocratie, la tolérance. On peut d'ailleurs s'entendre pour savoir si la démocratie est une valeur. Mais la question est de savoir, justement, comment s'articule cette idée de la liberté par rapport à l'idée du lien social. Parce qu'en fait, je pense que quand on parle de liberté, on n'entend pas tous la même chose. Et dans un contexte où revient de manière obsessionnelle cette question de la liberté d'expression, soumise à la façon dont Trump, Vance pose le problème, on voit qu'il y a là des modifications. Et donc ça mériterait tout de même d'être un petit peu plus creusé, surtout quand on regarde l'autre item qui est la question de savoir quels sont les sujets qui nuisent au lien avec autrui, et où on voit que c'est en premier lieu le sujet immigration, l'idée qu'on ne peut pas parler de ça. 67% des Français pensent que c'est le sujet dont on ne peut pas parler, et qui, en gros, pose problème entre les individus, et 66% les sujets politiques au sens large. Donc la question de savoir ce qui nous rassemble, ce qui permet de former une société vivable, se pose, si nous en sommes réduits à ce que ce soit les événements sportifs, je crois au caractère essentiel de la gastronomie parce que c'est civilisationnel, mais je pense que éviter tous les autres sujets et ne garder que cela risque de poser problème, et je crois que c'est lié à la définition que nous avons de la liberté.
Gilles Marx disait, je crois, il n'y a d'amitié que politique. Là, en l'occurrence, non. Il y a des amitiés parce qu'on ne parle pas de politique.
C'est intéressant ce que vous dites parce que la Fondation Jean Jaurès a fait une enquête justement sur les lieux de sociabilité il y a quelques semaines sur la France des PMU. On est allé dans une trentaine de PMU dans toute la France et interrogé à la fois les joueurs, les consommateurs, les serveurs, les patrons, tout l'écosystème autour des PMU qui, dans beaucoup de communes et de petites communes, sont un des derniers lieux de sociabilité. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voyait qu'ils parlaient de tout, sauf de politique, justement, pour ne pas s'embrouiller.
Juste, l'enquête, elle est sur le site ?
L'enquête est sur le site de la Fondation, et franchement, c'est intéressant, très intéressant à regarder. Sur le lien social, je fais écho à cette étude Ipsos d'une autre enquête qui est sortie au même moment de l'IFOP. On voit que il y a une crainte que ce lien social soit non seulement distendu, mais soit même explosé. Le risque d'explosion sociale, très haut pour 86% des Français. Mais surtout, quand on regarde la nature des événements que les Français pensent possibles ou qu'ils redoutent, il y a la reproduction d'événements passés, un mouvement agricole, des émeutes dans les quartiers populaires, un mouvement de type gilet jaune. Mais pour 42%, la crainte du déclenchement d'une guerre civile. Donc cette crainte sur le lien social, elle est très forte. Et comme élément positif, je trouve, sur ce qui nous rassemble, est-ce qu'il y a une aspiration à la radicalité ? On a quand même cette idée, ce petit parfum romantique de la latino-américaine du retour de la radicalité. Dans cette enquête, il y a un certain nombre de mots qui ont été testés. Le mot le moins aimé était le mot radicalité. 89% des Français disent ne pas apprécier ce mot-là, encore moins que islamisme. C'est intéressant. Et les mots qui y étaient associés, extrémisme, violence, rigidité, intégrisme, agressivité, dictature, intolérance, etc. Donc, premier élément. Et puis...
Donc juste, les gens parlent de... Donc, je résume, les gens parlent de guerre civile, mais ne la souhaitent pas.
Évidemment. Ils en parlent pour la redoute. Et puis, sur les facteurs de rassemblement, il y a les lieux de sociabilité qu'a évoqué Natacha, il y a un certain nombre d'événements. Alors, certains sont... conjoncturelle, la solidarité pendant les attentats, les grands événements internationaux organisés en France. D'autres sont plus structurels. Les fêtes historiques, 14 juillet, 11 novembre, les principes fondamentaux de la République, la devise, la laïcité, et puis un certain nombre de mots, une phrase, la France, la solidarité, la République, la nation, la mixité. Ça fait un beau programme.
Le grand face-à-face, le duel.
Allez, on va en proposer un nouveau mot, la justice. Avec ce troisième sujet du duel, on va ouvrir une large page consacrée à la décision donc de justice concernant le RN et Marine Le Pen en particulier. Natacha et Gilles, vous allez d'abord revenir sur les enjeux politiques, puis avec notre invité dans le débat, nous aborderons le débat juridique qu'il a ouvert. Place d'abord donc aux enjeux politiques. Au RN, pas de plan B envisagé publiquement, en tout cas Julien Odoul, porte-parole du Rassemblement National.
Vous savez, Marine Le Pen a été enterrée peut-être une centaine de fois au cours de sa vie politique, et elle s'est toujours relevée. C'est une battante, c'est une femme courageuse, et c'est une femme d'État. Et je souhaite et je pense qu'elle sera notre candidate, bien évidemment, puisque elle rassemble aujourd'hui une majorité de Français, les études d'opinion, les dernières élections, montrent bien que ce serait un scandale démocratique qu'elle ne puisse pas se présenter.
Alors Gilles, tout le monde ne pense plus, j'ai l'impression qu'à 2027, on l'a entendu, le RN se refuse à envisager un autre candidat que Marine Le Pen. Est-ce que le parti ne joue pas un peu avec le feu, voire à qui tout double ?
D'abord, énorme prudence pour nous dans ce débat-là. Parce que, alors, d'abord, on débat des conséquences et on parlera des causes après, mais surtout...
On parlera surtout des enjeux juridiques après.
Parce que... on a utilisé plusieurs fois le mot séisme, il y aura des répliques. On est en pleine bataille d'interprétation pour comprendre ce qui s'est passé et l'opinion n'est pas encore constituée sur ce sujet-là. Je suis sûr que c'est un des sujets dont les Français ont le plus parlé cette semaine et que ça a amené chacun à se poser des questions qu'il ne s'était jamais posées. Et donc comment tout ça retombe ? Personne n'en sait rien. Il y a un premier scénario possible qu'on entend beaucoup qui est, en réalité, tout ça va renforcer le Rassemblement national parce qu'il y a un sentiment de colère, un sentiment d'injustice, un sentiment de mépris. Mon intuition est que, en réalité, ça peut plutôt être un affaiblissement. Pour les raisons suivantes. D'abord, atteinte à la probité. Le jugement est extrêmement sévère. Le sentiment que plus de 4 millions d'euros ont été détournés sur 10 ans, un système dont le Rassemblement National, Marine Le Pen, savait qu'il était illégal, qui plus est organisé n'importe comment, ça laisse des traces. Mm-hmm. Deuxièmement, la rediabolisation. L'idée que dès que le vent se lève, le vernis craque, qu'on met en cause les juges, la justice, on professe des vérités alternatives... ça aussi, ça peut avoir un coût. Ces deux premiers points sont hypothétiques. Le troisième, à mon avis, est certain et il fait écho à votre question, c'est la désorganisation. L'attention du Rassemblement national pendant un an va être détournée de la préparation de l'élection présidentielle. Et le dispositif va être incertain, puisque on ne sait pas si Marine Le Pen pourra, à la fin, être candidate ou pas. Dans une année décisive, cette désorganisation, je crois, est un affaiblissement. Et puis je termine par un dernier point, qui est ce que j'appellerais la juniorisation. C'est-à-dire que dans l'hypothèse où Marine Le Pen est définitivement déclarée inéligible, ce qui me semble, on en discutera avec Denis Salas, plus que plausible, Jordan Bardella, si c'est lui qui prend la suite, et dont elle-même dit « ça serait un peu tôt », après Emmanuel Macron, qui a été un candidat élu très jeune et sans expérience, là, ça serait encore plus jeune, avec encore moins d'expérience, dans un contexte international encore plus difficile. Je crois que c'est une faiblesse. Ça ne veut pas dire que le Rassemblement national, loin
bien sûr,
de là,
bien sûr.
Disparaît, ni que c'est encore une menace pour 2017, mais je 20, crois 27, affaiblissement. Ouais.
L'idée de l'affaiblissement, elle a des conséquences dans tous les partis politiques. Tout le monde imaginait être face à Marine Le Pen au second tour. Là, les lignes bougent partout. La fameuse clarification qu'espérait Emmanuel Macron après la dissolution, elle est beaucoup plus puissante aujourd'hui, j'ai le sentiment.
Bien entendu. C'est ça qui est extrêmement frappant, c'est à quel point ce fait-là oblige à recomposer tout. Oui. Autour. Puisqu'en effet, ça a déjà été dit, mais la stratégie principale, par exemple, d'un Jean-Luc Mélenchon, était de radicaliser l'opposition avec le Rassemblement National, l'espoir étant d'arriver au second tour face au Rassemblement National et de jouer le barrage contre le fascisme. Mais tous les autres, en fait, étaient dans cette disposition-là et on voit bien qu'il va falloir, à un moment donné, construire un discours qui ne se limite pas à « moi ou le chaos ». Parce que, de fait, c'est comme ça que se sont jouées les dernières élections présidentielles. Alors, dans ce cadre-là, je rejoins Gilles sur les deux points essentiels qu'il a évoqués, la question de la diabolisation, de la rediabolisation, c'est-à-dire que le Rassemblement national se trouve, en effet, dans une situation intenable, puisque sa seule chance... là, d'espérer s'en sortir et de faire appel au peuple contre une décision inique du système qui aurait essayé de l'éliminer, ce qui, de fait, réduit à néant toute la stratégie qui consistait à dire « nous sommes crédibles, certes nous sommes une alternative au système, mais nous ne sommes pas dans la radicalité face à ce système ». On voit là qu'en effet, tout s'effondre. Et le point extrêmement important est en effet la question de la préparation. Une élection présidentielle se joue évidemment sur un programme, sur un positionnement, et un parti politique comme le Rassemblement National, en fait, draine des aspirations, des idées. Donc, on pourrait se dire, après tout, ils peuvent prendre n'importe qui. Oui. Et c'est vrai que la disparition de Marine Le Pen ne changera rigoureusement rien aux raisons pour lesquelles des citoyens votent pour le Rassemblement National. Or, c'est ça, le problème et le sujet. Mais, de fait, la mécanique d'une élection présidentielle se joue sur une personnalité et le fait de ne pas savoir quelle personnalité il va falloir porter est une faiblesse absolument énorme.
Oui, et puis le RN peut-il présenter un autre candidat qu'un Le Pen ? Ça, c'est une question historique parce que ça n'est jamais arrivé de l'histoire du parti.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Allez, on va poursuivre la discussion avec Denis Salas. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes magistrat, enseignant associé à l'École nationale de la magistrature. Et depuis maintenant une trentaine d'années, au moins, vous écrivez et réfléchissez beaucoup à la justice. Notamment, vous avez publié un livre qui éclaire sûrement la semaine que l'on vient de passer. Un livre publié en 2005, La volonté de punir, essai sur le populisme pénal. Vous avez également publié cette semaine une tribune dans Le Monde, une tribune intitulée « Rarement l'opposition a paru si nette entre deux conceptions de l'État de droit ». Et pour entrer dans le vif de votre analyse, écoutons Marine Le Pen qui s'en prend ici sévèrement à la justice qui, selon elle, a été particulièrement injuste.
Quand la décision arrive, elle est dure, mais elle est dure parce qu'elle est injuste et que, en réalité, vous connaissez très bien cette phrase de Montesquieu : il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce, à l'ombre et des lois et sous les couleurs de la justice. C'est-à-dire que quand l'injustice vient directement de ceux qui sont censés rendre la justice, il est évident qu'elle est plus insupportable encore que n'importe quelle autre injustice.
Je vous ai vu beaucoup réagir avec votre visage, Denis Salas, mais une première question peut-être presque philosophique. Est-ce que quand on a toute sa vie rendu la justice, on peut entendre qu'elle soit injuste ?
Ah oui, absolument. L'erreur judiciaire existe depuis très longtemps. Des mécanismes de réponse, de régulation à ce type d'erreur existent également. Il y a aussi des voies de recours qui existent, qui permettent effectivement de compenser telle ou telle irrégularité dans la procédure, ou même au niveau supérieur de la Cour de cassation, des moyens de droit qui peuvent être manqués dans les premières instances, qui peuvent être réparés par la suite. Donc le système est même construit, je dirais, est vraiment construit pour compenser ou réparer en permanence le type d'erreur qui pourrait intervenir en première instance ou en deuxième instance. Et le système est également conçu pour perpétuer dans toute la chaîne de la procédure le dialogue contradictoire avec la partie opposée qui est l'avocat de la défense en particulier. Donc voilà, le système tout entier est quand même élaboré pour éviter le dérapage, l'erreur ou les contradictions.
Cela veut donc dire que les propos, selon vous, de Marine Le Pen sont parfaitement légitime intellectuellement.
Non, ça veut dire que les propos de Marine Le Pen évoquent un crime venu d'une défaillance du système, pour reprendre son expression, et fait appel au peuple, on l'a vu dans l'extrait que vous avez passé, pour réparer l'injustice dont elle a été victime dans ce procès. J'observe quand même que, il faut quand même le rappeler, il y a eu une instruction qui a duré une dizaine d'années, il y a eu une enquête européenne de l'OLAF qui a duré également un certain nombre, tout à fait au début. Le procès a duré au moins 2 mois, je crois. Et puis, très important, la restitution de la réflexion des juges au cours de la motivation, que nous avons lu pour beaucoup dans la presse ou dans la...
Oui, Le Monde a publié notamment les bonnes pages.
C'est vraiment important parce que c'est une sorte d'accountability, de reddition des comptes, si vous voulez. On doit rendre des comptes au peuple français du travail qui a été fait dans cette affaire-là. Et je trouve que là, il y a eu deux choses. Cette motivation de 150 pages qu'on a, pour certains, pu lire ou des extraits. Et puis la motivation orale, qui a duré 2 heures, qui a été aussi entendue par beaucoup beaucoup de gens. Donc je trouve que l'effort de restitution, d'une réflexion, d'une délibération a été particulièrement accompli dans cette affaire.
Vous avez parlé de peuple à deux reprises, à la fois la justice qui vient justifier auprès du peuple la décision prise, mais Marine Le Pen qui en appelle aussi au peuple pour invalider cette décision de justice.
Oui.
Quelle est la place du peuple historiquement dans la justice ?
Ah, elle est fondamentale parce que dans un premier temps, faudrait faire un long exposé sur l'histoire du suffrage universel, mais dans un premier temps, le peuple lui-même s'exprime avant tout par le suffrage universel. Mais ce qui a été peu à peu reconnu, c'est qu'il y avait un peuple aussi fondateur, le peuple des déclarations des droits de l'homme, le peuple de la Convention européenne des droits de l'homme, ce peuple qui est effectivement à l'origine de la fondation de notre démocratie. Et c'est ce peuple-là que mobilise beaucoup le juge. Vous avez vu dans la décision, la déclaration des droits de l'homme est citée à plusieurs reprises. Le principe d'égalité devant la loi, le principe du procès équitable est mobilisé. Donc vous avez une mobilisation des droits fondamentaux dans cette décision et dans d'autres par ailleurs, qui est un peuple légitime, qui peut peut-être s'exprimer à ce moment-là, qui n'est pas le peuple électeur, mais qui est un peuple fondateur. Et puis il y a aussi un autre peuple, le peuple social, le peuple de citoyens plaideurs, qui peuvent effectivement demander au juge telle ou telle revendication, telle ou telle réclamation, sur leurs droits légitimes, sur lesquels, effectivement, il aurait été répondu. Donc, je pense que le peuple est absolument central, d'autant que, comme on dit habituellement, la justice est rendue au nom du peuple français, ce qui est dit dans toutes les formules exécutoires de la procédure.
Et en appeler uniquement à un de ces trois peuples, comme le fait Marine Le Pen, est-ce que c'est ça la définition que vous faites du populisme pénal ?
Le populisme pénal, c'est un peu différent. C'est essentiellement l'appel à un peuple pur, dans le cas du populisme pénal, un peuple de victimes, qui viendrait effectivement être brimé par une intervention politique qui serait contraire à ses intérêts. Donc le peuple va être, on va appeler au peuple pour désavouer, en quelque sorte, ce type de décision que le système ou les institutions pourraient formuler.
En quoi c'est différent ? J'ai l'impression que vous me dites exactement ce qui est en train de se passer.
Oui, c'est un peu la même chose, mais à part que dans le cas du pénal, c'est la figure de la victime est absolument centrale. C'est elle qui est utilisée pour, protester contre une décision qui lui serait effectivement contraire. Dans le cas qui nous occupe, c'est un petit peu différent.
Gilles,
On a beaucoup débattu depuis cette semaine de la question de l'exécution provisoire. Et moi, je voudrais revenir en amont sur ce qui me semble être en réalité le cœur du débat, qui est la question de l'inéligibilité. Et d'une certaine manière, le fait qu'il y ait un appel et que l'appel arrive aussitôt fait que nous allons revenir sur cette question centrale de l'inéligibilité. À la fois sur son principe, question sur le principe et question sur son application. Sur le principe, on a entendu deux choses. Il est légitime que des dispositifs prévoient les conditions à partir desquelles on peut être candidat à une élection, et la probité est une de ces conditions, et donc il est légitime comme exigence de probité, et donc il est possible qu'on ne puisse pas être candidat si on est inéligible. Et d'un autre côté, ça limite de manière scandaleuse le pouvoir de l'électeur. Donc je voudrais savoir quelle est la lecture que vous faites. Et puis, en pratique, in concreto, dans cette affaire, les juges, à la différence de ce qu'avait requis le procureur, ont considéré que il n'était pas que les faits n'avaient pas couru après la mise en œuvre de la loi Sapin 2 en décembre, mais qu'ils étaient antérieurs. Et donc l'inéligibilité n'était pas obligatoire, n'était pas automatique, mais que c'est un choix que eux faisaient. Est-ce que compte tenu de l'ampleur du détournement de fonds, ça vous paraît la conséquence inéluctable, l'inéligibilité de la peine de prison ?
Denis Salas.
Alors, pour répondre à votre question, il faut voir deux choses. Il faut voir qu'il y a un contrôle de proportionnalité entre le principe de l'éligibilité et les faits qui sont reprochés aux membres du Rassemblement national. Le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, a pris une position sur ce plan-là, invite le juge, finalement, à faire cette pesée cette proportion respective des deux facteurs. Et, effectivement, là, ce qui a été évident dans cette affaire que nous avons tous vu dans la motivation, dans les débats, c'est l'ampleur du détournement de fonds, publics. C'est aussi le système qui était organisé autour de cela. Et puis, surtout, la dénégation totale des faits face aux preuves avancées par tous les membres impliqués dans cette affaire, devant un certain nombre d'éléments, qui fait craindre, effectivement, qui a pu faire craindre à la juridiction que la réitération des faits pouvait être plausible, et c'est pour ça qu'on a prononcé l'exécution provisoire. Donc il y a quand même cet élément-là, à la fois le contrôle de proportionnalité. Alors c'est vrai que la loi Sapin 2 ne s'appliquait pas, mais le juge a décidé de le faire délibérément, parce que le dossier était suffisamment lourd au niveau des preuves et grave pour décider de cet ordre-là. J'ajoute quand même que les peines d'inéligibilité sont de plus en plus fréquentes aujourd'hui. Je regardais tout à l'heure un rapport de Transparency International depuis 2016. Elles ont été multipliées par je ne sais combien, il y en a plus de 9000 actuellement. Il y en avait 171 avant la loi Sapin, justement. Donc on est vraiment dans l'esprit de la loi, je dirais, par rapport à votre question, Gilles Wickenstein. Je pense que le juge a entendu cette demande du législateur, l'a interprétée favorablement pour l'étendre, en interprétant l'esprit de la loi Sapin dans le prolongement d'un souci de probité qu'exige aujourd'hui le monde politique, et donc la justice l'a tout simplement entendu et l'a appliqué dans cette affaire.
Natacha.
Pour continuer sur cette question et sur l'articulation entre inéligibilité et exécution provisoire, dans le texte du jugement est évoquée donc l'hypothèse, voilà, le tribunal évoque l'hypothèse où il n'y aurait pas d'exécution provisoire. Et il se dit, cela pose la question, le risque de voir les personnes condamnées être candidates, voire élues, alors qu'elles ont été condamnées à une peine d'inéligibilité en première instance. Voilà, c'est ça le risque. Et cela pose la question de l'effectivité de la peine d'inéligibilité prononcée par le tribunal, confirmée en appel, et dont l'exécution serait réduite à néant dans le cadre d'élections intervenues, avant que cette condamnation ne soit définitive. Donc en fait, ça veut dire, si l'on comprend bien, que le tribunal veut que cette inéligibilité puisse s'appliquer et que le risque, c'est qu'une élection intervenant avant l'appel efface cela.
Et qu'une fois élu, il y a une forme d'immunité pour le président et voilà. Donc qu'il n'y ait pas d'inéligibilité possible.
Avec une phrase un tout petit peu plus loin, dans le contexte décrit, eu égard à l'importance de ce trouble irréparable, donc l'ampleur de la fraude, le droit au recours n'est pas un droit acquis à la lenteur de la justice. Oui. La phrase est intéressante.
Cette phrase est
mais
intéressante.
Mais, pour autant, cela signifie tout de même que le juge considère que quel que soit ce que dira l'appel, il serait plus grave qu'un coupable soit élu plutôt que de tout simplement accepter. Est-ce que c'est pas un problème tout de même de position par rapport à la question de, enfin, la présomption d'innocence, et est-ce que ce n'est pas tout de même considérer que la morale qui est censée défendre le juge est plus importante que le libre choix de l'électeur.
Denis Salas, sur la question, effectivement, la morale est intéressante. Hein. Est-ce que le juge rend... sur quels critères? Est-ce qu'il y a un critère moral dans la décision de justice qui a été celle de lundi?
La question est vraiment centrale par rapport à cette affaire. La première chose que je dirais, c'est que... vous savez, il y a toujours cette défense des politiques devant les charges qui leur sont reprochées. J'irai devant le peuple. C'est le peuple qui jugera. Mais depuis toujours, il y a une sorte de rivalité entre les deux jugements, celui du peuple et celui du juge qui doit répondre devant la loi. Et effectivement, cette défense, c'est une défense assez habituelle à laquelle le juge veut répondre dans cette affaire-là. Il dit non, vous devez d'abord répondre de vos actes. devant une juridiction par rapport à ce que vous avez commis. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, il y a, moi, ce que j'appelle le conséquentialisme du juge. C'est pas une notion qui est très très connue en France, une notion très très répandue dans le droit américain. Moi, je suis un grand lecteur de Stephen Breyer, le juge américain qui vient de publier un ouvrage sur l'interprétation de la Constitution. Il dit, moi, je suis aussi conscient des conséquences que ma décision peut avoir sur la vie de mes concitoyens. Et là, le juge dit un peu la même chose. Il dit, si demain Marine Le Pen est élue, ayant été condamnée à une peine de détournement pour détournement de fonds publics, à une peine d'inéligibilité, ce serait, alors cette formule a été très largement commentée comme étant nouvelle, ce serait une atteinte à l'ordre public démocratique, qui est une forme effectivement de morale civique ou de morale démocratique dont le juge se fait le porte-parole. Donc il y a là, effectivement, je ne pense pas que ça soit central dans la démonstration du juge. Je pense pas. Je pense qu'elle a voulu ajouter ce point-là pour peut-être faire allusion à un risque démocratique qu'elle veut anticiper. Et effectivement, ce serait assez grave quand même quand on y pense, mais c'est une hypothèse qu'on peut faire, qu'elle fait. Mais je pense qu'elle a voulu montrer qu'elle est consciente des conséquences de sa décision et qu'elle en est responsable, qu'elle assume aussi, de manière directe, qu'elle assume, mais qui peut être contestée, effectivement, du point de vue de la décision qui pourrait être prise, mais qui, en même temps, n'est pas, à mon avis, le cœur de l'argumentation, qui est plutôt celui qu'on vient de dire avec Gilles Wickenstein, plutôt le risque de réitération des faits en raison de la gravité des actes commis.
Passionnant, ça, le conséquentialisme. Gilles.
Oui, alors, j'ajoute un élément, et je pose une question. L'élément, c'est... Je trouve c'est formidable dans la lecture de ces 150 pages de jugement, c'est que on rentre dans le raisonnement du juge. Et en l'espèce, le juge dit exactement quel est son raisonnement. Parce qu'il dit ce que Natacha a évoqué, il y a ce risque de voir des personnes condamnées être candidates. Mais l'autre risque qu'il explicite est que cette peine, s'il n'y a pas exécution provisoire, s'il y a exécution provisoire, le risque qu'en appel, ça soit annulé. Donc, il est face à deux risques qui l'explicitent. Oui. Et l'argument que vous n'évoquez pas, Natacha, c'est que c'est l'effectivité de la peine et c'est l'égalité des citoyens parce que les élus seraient traités de manière différente en ce qu'ils pourraient, par l'élection, échapper à la condamnation.
C'est ce qu'elle dit.
Je reviens à ma question, puisque maintenant, on a un calendrier. Pour l'appel, avec un jugement, donc l'audience, puis le jugement, tout ça intervient avant l'été prochain. Ma question, c'est...
L'été 2026 ?
Oui, pardon, l'été 2028. Si
le prochain
quand
est
même,
2025
oui. Ma question est-ce que, compte tenu de la robustesse de ce jugement, sur la condamnation à la peine de prison et sur l'inéligibilité et de ce qui semble être la poursuite de la stratégie de défense du Rassemblement National, une autre issue vous semble plausible? Et question complémentaire au magistrat, à l'ancien magistrat, est-ce que le délai permet d'avoir un jugement définitif, c'est-à-dire y compris avec la cassation, avant l'élection présidentielle?
Je réponds deux points.
Denis Salas.
Deux points. La première chose sur l'appel, le dossier. Le dossier sera le même. Ne l'oublions pas. Il est sur la table. Et il sera identique. Par contre, ce qui peut-être changer la donne, c'est la position de la défense du Rassemblement National. On a vu qu'elle a été sévèrement sanctionnée dans la décision de première instance. Nous verrons.
Ça veut dire quoi? Reconnaître, par exemple, la culpabilité? Pour éviter le risque...
Marine Le Pen, dans un premier temps, si j'ai bien lu la décision, a remboursé une partie de la dette qu'elle doit au Parlement européen. Donc elle était plutôt une démarche de reconnaissance des faits. Mais après, la stratégie a changé. Peut-être que cette stratégie peut évoluer. Ça peut jouer un rôle important dans la décision ultérieure. Et parallèlement, sur le délai, alors là, ça me semble extrêmement important. C'était jugé sévèrement par une partie de la presse, délai rapproché comme étant un principe. Je ne partage pas ce point de vue. Je pense que par rapport à la scène sauvage comme dirait Claude Fort, de la démocratie qu'on a vécue là, au Parlement, récemment, je n'ai pas rappelé ce qu'a dit M. Tanguy, couvert par l'immunité parlementaire à l'Assemblée nationale. Hein. Tyrannie des juges, l'état de droit est exécuté, Marine Le Pen est exécutée en place publique, enfin c'est une violence incroyable.
Vous, dites-moi juste pourquoi vous, dites que, non, pourquoi vous dites que c'est important qu'il y ait l'immunité quand il le dit, parce que ça pourrait être passible de poursuite.
Non, il est couvert par...
Non, mais s'il n'était pas député, ça serait ce type de propos...
Ça pourrait donner lieu à une réflexion par rapport à une réponse en termes d'injure ou diffamation. Enfin,
d'accord.
Mais c'est par rapport à cette violence-là. Mais non, simplement, je veux dire par là, c'est ça, c'est la question centrale. Ce délai est rapproché. Je trouve important que ce délai soit rapproché parce que, je dirais, les procédures permettent de canaliser les passions politiques. Et je trouve que, si vous voulez, le fait que l'organisation, le jugement, on ne préjuge pas du tout du fond. Hein. On est juste une mesure d'organisation, c'est tout. Et j'espère qu'on pourra juger aussi l'affaire du MoDem un peu avant, si possible, pour la cohérence de la démarche. Mais le fait de pouvoir compter sur les procédures pour canaliser les passions politiques les plus négatives comme celles que je viens de citer, ça me semble une bonne chose. Et je trouve que la démocratie s'honore de ce point de vue-là à pouvoir effectivement anticiper par son organisation, malgré les moyens faibles de la justice, répondre à cette attente. Donc nous verrons, il n'y a pas de préjugement là-dessus, au contraire. C'est simplement un calendrier qui s'adapte la situation donnée. Et je pense que de ce point de vue-là, la Cour d'appel a entendu le message des juges de première instance en disant effectivement, il faudrait peut-être accélérer les choses pour que les élections présidentielles se déroulent dans de bonnes conditions.
Natacha.
Je reviens quand même sur cette question qui me semble fondamentale de l'équilibre entre le peuple, le législateur et l'autorité judiciaire. Parce que cet équilibre a évolué, en fait. Jusqu'à un point où certains considèrent que justement il n'y a plus d'équilibre et que c'est déséquilibré. Les lois qui petit à petit ont durci les peines sur les affaires politiques, les détournements de fonds publics de la part des politiques, émanent d'une demande très claire des citoyens. Une demande de transparence et de probité.
De moralisation.
De moralisation. Le Rassemblement National en a joué plus qu'aucun autre parti. Il faut se souvenir que Marine Le Pen, d'ailleurs, demandait une inéligibilité à vie. Pourquoi ? Parce que, justement, je pense qu'on peut dire que la force, l'attrait du Rassemblement National était en partie lié à cette idée de tous pourris. Et donc, ce qui aboutit à la condamnation de Marine Le Pen est justement ce qui lui a permis de monter politiquement. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il appartient à l'autorité judiciaire de finalement se faire le représentant de la morale face non seulement au peuple, mais aussi face au législateur, et est-ce que dans cet équilibre entre le législateur et l'autorité judiciaire, finalement, le poids qu'a pris l'autorité judiciaire n'aboutit pas à limiter à la fois les capacités du législateur dans certains cas, ce que certains appellent le gouvernement des juges, en fait, et la possibilité pour le peuple de trancher, ce qui me semble quand même une question importante en démocratie.
Denis Salas, et puis au passage...
Comment se joue cet équilibre, quoi ?
Denis Salas, c'est peut-être aussi au passage l'expression « gouvernement des juges » qu'on a beaucoup entendu, qu'on entend depuis 1921 en France, Édouard Lambert sur la Cour suprême américaine. Mais au-delà de cette histoire-là, c'est quand même une critique habituelle, entendue régulièrement dans les médias, et cette semaine, partout.
Partout. Ouais. Oui, il y a un équilibre. La décision elle-même appelle à un équilibre entre le suffrage universel, le droit au suffrage universel, et les charges pénales qui pèsent contre les élus. Et le contrôle de proportionnalité peut varier d'une juridiction à l'autre, qu'on appelle par un autre point de vue, etc. Non, je pense que la particularité de la démarche du législateur, c'est d'avoir couplé une loi pénale qui moralise énormément la vie politique, mais c'est pas la seule, il y en a eu plusieurs depuis avant Sapin et après, et d'avoir couplé cette loi avec une capacité de, d'enforcement, de mise en œuvre de la loi. La, le parquet national financier. Et ça, c'est la démarche décisive. Parce que si vous avez une loi sur le papier et que vous n'avez pas les moyens de l'appliquer, il ne se passera rien. Mais si vous mettez un parquet financier spécialisé, outillé pour bâtir des dossiers comme celui-là, dans l'affaire Le Pen, eh bien, ça change complètement la donne. Parce que là, vous avez effectivement sur la table une capacité d'action et de mise en œuvre de la loi qui permet effectivement, face à des avocats, face à des stratégies de dévoiement de la loi comme ce qu'on vient d'assister, d'avoir un dossier qui peut effectivement tenir la route et aller jusqu'à la juridiction, malgré une défense d'obstruction, ce qui est très très forte de la part de la défense. Donc je pense que c'est ce couplage loi plus mise en œuvre de la loi qui est assez nouveau en France, hein, parce qu'on est très fort pour voter des lois, mais pour la mise en œuvre après, c'est autre chose. Mais là, je pense que c'est ça qui a fait changer la donne, à mon avis.
Denis Salas, on a l'issue d'une semaine où la justice a été critiquée largement, l'expression de gouvernement des juges, les juges rouges, etc. Partout, et d'ailleurs en débordant le cadre du Rassemblement National, je m'en souviens d'un temps où les politiques n'évoquaient jamais une décision de justice. Est-ce que pour vous, ça c'est un bon baromètre de l'état de notre démocratie au sens plus large?
La critique du gouvernement des juges, je pense qu'il faut, tout le monde peut critiquer une décision de justice, à la fois la commenter, la discuter, ça fait partie du débat démocratique tout à fait normal, et Dieu sait, c'est là, on s'en est pas privé. Par contre, là, je suis beaucoup plus réservé sur la notion de gouvernement des juges qu'on nous resserre en permanence, dont il faut faire l'étymologie, l'histoire, on va le refaire. Non, ça, c'est, je pense que c'est une rhétorique de dénonciation et de critique qui est en quelque sorte suspendue à un moment où, dans l'histoire de la magistrature, où il y avait cette étiquette des juges rouges qu'on connaissait à l'époque, qui revient en permanence, et puis l'affaire du mur des cons est resservie en permanence, qui est une sorte de rhétorique de dénonciation qui repose effectivement sur une volonté sur un background de critique systématique de l'activité judiciaire. Alors que, précisément, il faut regarder la réalité des faits, la réalité des décisions pour s'appuyer sur une critique réelle.
Mais vous avez employé une expression tout à l'heure quand même qui était importante. Vous avez parlé du peuple fondateur, c'est-à-dire celui qui est l'auteur de la Déclaration des droits de l'homme. Oui. Mais est-ce que par moment, ce peuple fondateur ne limite pas tout de même la possibilité de décision du peuple actuel? Et est-ce que, là encore, dans cet équilibre, on n'a pas un truc qui penche d'un côté? C'est-à-dire que la démocratie, c'est qu'une génération ne peut pas entraver la génération suivante.
Et d'ailleurs, on est exactement là, dans votre tribune, sur les deux conceptions de l'état de droit qui s'opposent.
Pour moi, c'est le cœur du sujet, parce que c'est vraiment... nous sommes en permanence confrontés à une articulation entre l'héritage des droits fondamentaux. Il faut dire Déclaration des droits de l'homme, mais Convention européenne des droits de l'homme, qui est applicable en France et qui est le quotidien de la magistrature. Le procès équitable est un baromètre de la bonne justice. Et puis, la loi votée avec le Parlement, par le Parlement. Et cette articulation entre les droits fondamentaux et la loi votée par le peuple électeur, c'est deux peuples. Le juge est au centre de cela. C'est ça qu'il faut bien voir. Et le citoyen, quand il fait une question prioritaire de constitutionnalité, que fait-il? Il fait ça. Il veut confronter la loi votée par le Parlement et puis les droits que lui se réclame comme étant titulaire pour obtenir une décision qui lui serait, il l'espère en tout cas, favorable. Donc le Conseil constitutionnel, la question prioritaire de la constitutionnalité, je pense que c'est le moment d'articulation des deux moments d'expression du peuple, toutes deux légitimes, mais toutes deux en quête d'articulation, et le prétoire, le juge, en est le lieu naturel.
Et ces deux peuples, de manière quasiment caricaturale, seront face à face, d'une certaine manière, demain, place Vauban, le Rassemblement National, l'appel au peuple électeur, alors que, à la Cité du Cinéma, en Seine-Saint-Denis, le Bloc Central prétend défendre l'état de droit du peuple fondateur. On aura là demain l'expression exacte de ce que vous êtes en train de nous raconter.
Comme quoi, il n'y a pas un peuple unique. Comme dans certaines dictatures, il y a un peuple unique, pur, auquel on pourrait se référer, mais plusieurs modalités d'expression du peuple, et je pense qu'on en a un peu démontré aujourd'hui la réalité, la pluralité et la souveraineté plurielle.
Merci beaucoup Denis Salas de nous avoir éclairé aujourd'hui avec autant de précision et de rigueur et de sincérité aussi. Merci à Gilles et merci à Natacha, merci à l'équipe du Grand Face à Face, Mathilde Clatte à la préparation de l'émission, Marie Merrier pour sa réalisation. Aujourd'hui, Ludovic Asselot était à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France.